écoutez Radio France Internationale, il est minuit en temps universel, 2h ici à Paris et à Rome.
Galibonin.
À la une de ce journal, l'Église catholique a trouvé son nouveau pape. Léon XIV est le premier souverain pontife d'origine américaine. Donald Trump a salué cette nomination, celle d'un homme d'Église qui est pourtant très éloigné des idéaux du président américain. Washington et Londres annoncent une entente commerciale. C'est le premier accord du genre depuis le début de la guerre commerciale amorcée par la Maison-Blanche. Avec l'Union européenne, par contre, le bras de fer se poursuit. Bruxelles menace de taxer pour 95 milliards d'euros d'importations américaines. Une surenchère justifiée, nous expliquera un expert dans quelques instants. Au Mali, les partis politiques rejettent la suspension de leurs activités décrétée par le pouvoir en place et les affrontements continuent entre l'Inde et le Pakistan. Dans cette escalade, New Delhi a su rapidement mettre la population de son côté. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. L'Église catholique a donc son nouveau pape. Il s'appelle Léon XIV et pour la première fois en 2000 ans d'histoire, c'est un Américain qui va s'asseoir sur le Saint-Siège. Il est né à Chicago. Son élection a été saluée par le président Donald Trump, même si le nouveau souverain pontife n'est pas très proche de ses idées. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un tel honneur de réaliser qu'il est le premier pape américain. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très significatif. C'est ainsi que Donald Trump souhaite la bienvenue au pape sur son réseau social personnel, la fierté nationale avant tout donc. Mais cela ne veut pas dire que les deux hommes s'entendront, car Robert Prévost, avant d'être pape, n'était pas proche de la droite américaine la plus extrême qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est même tout le contraire. Dans ses plus récentes publications sur les réseaux sociaux, il s'oppose très ouvertement à l'administration sur la question des migrants et sur la politique d'expulsion. Il corrige même le vice-président J.D. Vance, un catholique qui est la dernière personnalité à avoir rencontré le précédent pape. J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres, écrit le nouveau souverain pontife. La magasphère l'a bien compris, Laura Loomer, l'influenceuse d'extrême droite, souvent écoutée par le président, elle se targue même d'avoir fait tomber plusieurs têtes dans son entourage, répond directement à cette publication de Robert Prévost en le traitant de pape marxiste et woke. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Lors de son premier discours, Léon XIV a lancé un vibrant appel à la paix pour tous les peuples. Il en a profité pour remercier le pape François décédé il y a un peu plus de 2 semaines. Une prise de parole qui a été immédiatement commentée par Kiev et Moscou. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit sûr qu'un dialogue constructif se poursuivra avec le nouveau pape. Et Volodymyr Zelensky espère quant à lui que le nouveau pape soutiendra moralement l'Ukraine. Pour la suite, une première messe est prévue avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine vendredi à 9h en temps universel. Et pour suivre tous les développements, on vous donne rendez-vous demain matin sur RFI. Nous serons en édition spéciale à partir de 6h en temps universel.
RFI, les voix du monde.
C'est la première trêve depuis le début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Londres et Washington ont dévoilé un accord entre les deux pays. Le Royaume-Uni échappe ainsi à la majorité des surtaxes américaines. Celle de 25% sur les importations automobiles sera ramenée à 10%. La taxe plancher pour les États-Unis, impossible d'aller en dessous, estime le président américain. En échange de cet assouplissement, le marché britannique va s'ouvrir davantage aux produits agricoles transatlantiques, comme le bœuf ou encore l'éthanol. Une entente qui est bien reçue par Wall Street, qui a clôturé en hausse jeudi soir. Nouveau souffle aussi pour le Bitcoin, qui a de nouveau franchi la barre des 100 000 $, une première depuis le mois de février. Le président américain avait fait une campagne présidentielle pro-crypto qui avait fait gonfler les portefeuilles des investisseurs, mais le climat d'incertitude lié à la guerre commerciale a ensuite plombé le marché des devises numériques. Une guerre commerciale qui se poursuit avec l'Union européenne. Bruxelles a menacé de taxer 95 milliards d'euros d'importations américaines en cas d'échec des négociations. Parallèlement, l'UE va saisir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, contre les mesures commerciales de Washington. Une stratégie offensive nécessaire, selon Eric Dorr, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.
Dans ce bras de fer, chacun doit un peu montrer ses muscles et montrer ce qu'il peut infliger à l'autre en l'absence d'accord. Donc je pense que les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, dont on sait peu, évolue d'une manière qui a persuadé les dirigeants européens qu'il était nécessaire de montrer un peu les dents, de montrer ce qu'on était prêt à infliger aux États-Unis, en cas d'absence d'accord. En même temps, l'Union européenne porte plainte à l'OMC, mais là, on peut expliquer pour quelles raisons. C'est quelque chose qui, pour le moment, a peu de chances d'aboutir. Mais on voit bien que dans tout ce contexte, il est important pour l'Union européenne de montrer qu'elle peut également infliger des dommages aux États-Unis pour les rendre plus raisonnables.
Éric Dor de l'IESEG School of Management au micro d'Altine Lazage. En Algérie, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Sétif pour commémorer la répression sanglante du 8 mai 1945. Sous le slogan « La France doit reconnaître ses crimes », les manifestants réclamaient des excuses officielles de l'ancienne puissance coloniale. Il y a 80 ans, les autorités françaises ont massacré des milliers d'indépendantistes algériens durant un rassemblement. Les morts se comptent entre 2000 et 20 000 selon la France et jusqu'à 45 000 selon les Algériens. Au Mali, une centaine de partis politiques parmi les plus représentatifs du pays ont publié un communiqué pour rejeter la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Une décision annoncée mercredi sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta. Il évoque des raisons d'ordre public. La suspension, qui concerne aussi les associations à caractère politique, intervient moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit. Un rassemblement était d'ailleurs prévu ce vendredi. Magali Lagrange.
Indignés mais pas surpris, les partis politiques pour la Constitution rejettent catégoriquement la suspension de leurs activités qui s'inscrit selon eux dans une tendance systémique de restriction de l'espace civique et politique par les autorités maliennes de transition. Tout en dénonçant des actes d'intimidation et de violence à leur encontre, les partis politiques maliens annoncent leur décision de lancer une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obtenir l'annulation de la suspension de leurs activités, une mesure qui porte atteinte aux libertés fondamentales d'association, d'opinion et d'expression. Pour eux, le décret est illégal. Aucun fait précis, rappelle-t-il, n'est reproché aux partis politiques. La charte qui les régit est toujours en vigueur au Mali et celle-ci ne donne pas à l'autorité administrative le pouvoir de suspendre un parti, une compétence exclusive des tribunaux. Les partis politiques maliens appellent donc les autorités de transition à la levée immédiate d'une mesure qu'ils jugent liberticide et démocraticide. Toutes les composantes de la société malienne, disent-ils, doivent pouvoir participer à la vie publique.
Guerre en Ukraine, Donald Trump tape de nouveau du poing sur la table. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain demande aux belligérants de conclure un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Au même moment, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir violé son propre cessez-le-feu. Cessez-le-feu que Vladimir Poutine a unilatéralement décrété, mais selon Kiev, les troupes de Moscou attaquent sur toute la ligne de front. Le gouvernement ukrainien a enregistré des centaines de violations du cessez-le-feu. Nouveaux tirs d'artillerie et d'armes légères la nuit dernière entre l'Inde et le Pakistan. Les affrontements ont eu lieu le long de la frontière qui sépare la région contestée du Cachemire. Les échanges interviennent 24 heures après la plus violente confrontation entre les deux pays en 20 ans. L'Inde dit agir contre le Pakistan en représailles à l'attentat du 22 avril dernier qui avait fait 26 morts. Isabelle Saint-Mézard, professeure et chercheuse associée à l'IFRI, revient sur la communication du gouvernement indien qui a su s'assurer le soutien total de sa population.
Les Indiens, là, ont vraiment bien joué leur carte. C'est assez remarquable. Ils ont habilement dénommé les frappes qu'ils ont opérées le 7 mai, opération Sindour. Sindour, ça fait directement référence à un symbole des femmes qui ont été mariées. Et ce faisant, en fait, ils font référence à ces épouses qui ont été victimes des attentats terroristes d'avril et qui, en fait, ont été épargnées par les terroristes, mais qui ont vu leur mari être exécuté à bout portant par les terroristes. Donc il y a cette forte dimension de vengeance ou de rendu de la justice par les femmes endeuillées et rendues veuves par ces actes terroristes. Ça a beaucoup galvanisé et parlé à l'opinion publique indienne.
L'analyse de la chercheuse Isabelle Saint-Mézard, interrogée par Pierre-Olivier, qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.